présenter. Le fils, qui est mis en scène par David Gauchard, et Aquila, le tissu d'Antigone, mis en scène par vous-même. Aquila, le tissu d'Antigone, qui est présenté au THV, Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy, et Le fils, qui est présenté ici, au Quai, en scène de répétition. Ces deux textes sont de vous. La mise en scène du fils est donc de David Gauchard, comme je disais, que je profite pour saluer. Et la mise en scène d'Aquila est la vôtre. Les deux sont édités chez Lanceman Éditions et sont disponibles à la librairie du Quai. Ça serait une de mes premières questions, autrice et metteuse en scène. Peut-être resituer un tout petit peu, et si je dis des bêtises ou si ce n'est pas suffisant, tu compléteras, Marine. Autrice et metteuse en scène au sein du collectif Lumière d'août, fondé par tes soins avec d'autres auteurs en 2004 à Rennes. Autrice, au sein de ce collectif, tu dis explorer l'alliance du document et de la fiction, les croisements entre corps et politique, ainsi que les questions féministes et post-coloniales. Ma première question est là-dessus, sur cette dualité ou ce binôme autrice-metteuse en scène. Quel est le rapport justement que tu entretiens à tes propres textes, et notamment parce que là c'est assez original, on en a un qui est donc mis en scène par un autre metteur en scène que toi, et un qui est mis en scène par tes soins. Est-ce qu'il y a eu une surprise par rapport à la proposition de David Gauchard? Est-ce que Aquila, c'était une évidence de le mettre en scène, ou du moins pour la première? Est-ce qu'après, tu autoriseras d'autres metteurs en scène? Quel est vraiment ton rapport à tes textes une fois qu'ils sont en scène?
Il est multiple, ce rapport. En tout cas, Le fils, c'est une commande que m'a faite David Gauchard. Et Aquila, c'est une sorte de commande que je me suis faite à moi-même, parce que j'avais besoin d'écrire cette pièce et de la mettre en scène. Dans les deux cas, et c'est de plus en plus comme ça que je travaille, et ça raconte quelque chose sur l'articulation autrice-metteuse en scène, dans les deux cas, il y a eu un premier lancement des textes et des essais avec Emmanuel Hiron pour Le fils, l'interprète, et puis avec l'équipe d'Aquila pour Aquila. En fait, plus ça va, plus j'ai besoin, sur une première version, sur un premier jet, sur un début, de venir éprouver et tester qu'est-ce que ça donne dans la voix, dans le corps des interprètes. Pour comprendre en fait comment je peux aller plus loin, comment ça résonne. Donc je me souviens que pour Le fils, il y avait eu une première demi-heure du texte écrite. On avait déjà fait des lectures ensemble avec David et Emmanuel. Même on l'avait un petit peu fait des crash tests avec du public. Ça, c'est toujours aussi intéressant, surtout quand on travaille sur des sujets un petit peu épineux ou un petit peu brûlants socialement, de voir qu'est-ce que ça donne. Et ça, voilà, avec une interprète comme Emmanuel, c'est vrai que c'était extrêmement agréable d'entendre le texte, de voir comment ça fonctionnait. Ce qui a été beau aussi dans notre collaboration à tous les trois, David, moi et Manu, c'est que sur le moment de la lecture, David m'a aussi laissé parfois dire des choses à Emmanuel sur des choses de rythme, de le dire. Et évidemment, après, dans le travail de mise en scène, il faut que l'auteur ou l'autrice s'en aille à un moment donné. Donc moi, j'ai été hyper heureuse qu'on soit allé sur la première semaine de travail, là où le texte était achevé, que j'ai été avec eux. Et puis après, il fallait aussi laisser le champ au metteur en scène pour que justement il puisse m'étonner, et que quand arrive la première, je vois un objet, j'entends et je vois mon texte, mais je vois aussi quelque chose qui me déplace et qui m'étonne. Alors quand je suis autrice et metteuse en scène, c'est plus difficile de faire s'absenter l'autrice, mais on y travaille. Et là, c'est aussi beaucoup écouter et faire confiance aussi aux interprètes, qui eux aussi ont des sensations sur... donc on a aussi beaucoup travaillé. Alors moi, j'écris quand même bien. Je fais pas l'écriture de plateau. J'écris vraiment de mon côté.
Le texte est en amont.
Il vient être éprouvé. On en parle. On voit des choses. Et puis je retournerai écrire. Et on aboutit petit à petit à la version plateau. Mais voilà, moi je trouve que de plus en plus j'ai besoin de cette articulation texte, plateau, retour des acteurs, mais aussi également retour des auteurs du collectif dont je fais partie, Lumière d'Août, puisque c'est un collectif où on se fait énormément de retours sur les textes en cours. Voilà.
Un vrai collectif au sens... Ouais. On y reviendra peut-être d'ailleurs sur comment il fonctionne. Mais donc, est-ce que ça veut dire que pour Le Fils, par exemple, et pour Aquila, il y a eu des réécritures au fur et à mesure ou des ajustements dans l'écriture? Néanmoins, ces allers-retours avec le plateau ont donné ça?
Évidemment qu'il y a différentes couches, différentes réécritures. Hein. Je ne parle même pas des versions bêta ou qui n'étaient pas forcément tout à fait les bonnes pour Le Fils. Et puis j'ai fini par trouver l'endroit où cette parole allait pouvoir être portée par l'actrice. Donc oui, il y a plein de versions. Enfin, mais comme chez tous les auteurs et les autrices qui écrivent du théâtre et du roman ou autre chose, on écrit, on réécrit, on reprend, et puis ça se transforme avec l'équipe qui le porte au plateau.
Et pour Aquila, il fallait que ce soit toi la première mise en scène pour. C'était une évidence. C'était pas possible d'offrir ce texte ou qu'un metteur en scène s'en empare.
Disons que
ou c'est juste ça s'est présenté comme ça.
Non, moi j'avais envie de le faire parce que ce qui m'a déterminée à écrire, c'est ce qui s'est passé, par rapport aux attentats en France, et que j'ai eu envie et besoin d'inventer cette fiction, cette transposition contemporaine d'Antigone autour de cette jeune femme sœur de terroriste. Et qu'évidemment, tout ce que je soulève, certaines personnes hier au débat après le spectacle, où elles disaient « Waouh, c'est courageux, c'est assez gonflé de soulever toutes ces questions », il faut aussi avoir, pouvoir assumer de porter toutes ces questions, de soulever cette jeune femme voilée, sœur de terroriste, lycéenne, qui met vraiment la communauté scolaire et par... par extension, la société en crise, c'est se sentir capable d'assumer ça, de porter, qu'avec l'équipe des acteurs, on est prêt aussi à porter cette histoire, à réagir face à d'éventuels détracteurs. Donc oui, j'avais envie d'aller jusqu'au bout de le porter. Et évidemment, moi, maintenant, cet objet, il existe, il est édité, le texte, et il peut être, plein de gens peuvent s'en emparer. Et d'ailleurs, déjà des classes, des lycéens, des lycéennes s'y prêtent. Et c'est super, en fait, que ça circule. Et s'il y a une autre mise en scène, dans quelques temps, j'en serais absolument ravie. Mais ça a aussi du sens pour moi. Et d'ailleurs, depuis l'édition du texte, et avec le travail au plateau, il y a des choses qui ont bougé un petit peu, il y a des choses qui ont été coupées dans le texte.
Et peut-être justement par rapport au sujet et par rapport à ce que tu défends un théâtre politique. Et est-ce que pour toi, c'est l'endroit du théâtre? Le théâtre se doit d'être politique?
Alors, en Occident, on parle de cette espèce d'essence du théâtre qui est née dans la démocratie athénienne et donc qui est un petit peu... le théâtre naît en même temps que la démocratie. Et cet espace où la cité s'interroge sur les questions qui la travaille. Donc moi, je pense que je suis assez fidèle à cette conception-là. Et en même temps, bon, après, il y a eu les utopies marxistes et le théâtre que ça crée. Et je me situe un peu dans cette filiation-là, en tout cas un théâtre de transformation sociale, un théâtre d'émancipation intellectuel et politique. Le théâtre de divertissement, j'ai aussi envie de faire un théâtre divertissant, hein. Brecht le disait, hein. Il faut aussi que ça nous sorte un peu de notre quotidien, de nos idées, etc. Donc c'est pas du tout un... Mais en tout cas, un théâtre qui serait plus onirique, ouvre aussi d'autres espaces d'imaginaire. Moi, c'est peut-être moins l'endroit, même si j'aime bien le réalisme et le surnaturel. Enfin, j'aime bien aussi que ça décolle. Mais par contre, mon point de départ, souvent, est très documentaire, réaliste, très ancré dans la réalité sociale, politique, que ce soit dans Le Fils ou que ce soit dans Aquila. Avec souvent aussi un soubassement plus mythique, plus large. Mais et je pense que c'est ça aussi qui est beau dans le théâtre, c'est de se rassembler, de parler de questions qui peuvent nous agiter et de les déplacer. puisqu'elles sont souvent très clivées, très compliquées dans l'espace voilà, public. Donc comment, quand ça se raconte ou quand ça se joue sur un plateau de théâtre, dans une fiction plus ou moins documentaire-documentée, comment ça se déplace, comment les choses se apparaissent ou se déplient autrement, comment, voilà, comment ça travaille et comment ça nous fait travailler. Donc oui, moi j'aime bien cette idée de théâtre politique.
De le défendre, ouais. Nous aussi on aime bien. Et peut-être justement, j'ai deux questions par rapport à ça qui me viennent, c'est comment la cuisine interne, comment ça marche par rapport à la documentation. Donc, et puis j'entendais la cité Brecht, donc tu as un vrai rapport brechtien à ça, au théâtre, avec une certaine distanciation aussi, ce qui était qu'on connaît chez Brecht, par rapport aux événements pour une meilleure lecture du réel. Donc j'ai deux questions, c'est comment ça fonctionne dramaturgiquement, est-ce que t'amasses toi plein de voilà, c'est un événement dans l'actualité qui comment ça démarre, c'est un événement dans l'actualité qui est le point de départ pour te faire écrire. Comment ça marche aussi quand ça bouge? Samuel Paty, c'est il y a un an, presque date à date quand même, jour à jour. C'était hier, il me semble, la date malheureuse anniversaire.
C'est demain.
C'est demain, pardon. Et est-ce que tu réécris? Est-ce que cette actualité aussi te déplace quand le document est tellement contemporain, finalement? Et là, pour Aquila, on a affaire à... Tu reprends le mythe d'Antigone que tu transposes de manière contemporaine pour cette éventuelle distanciation, j'imagine. C'était l'idée?
Absolument. C'est comment parler aujourd'hui de cette France après les attentats terroristes, du sort qui est réservé effectivement, donc en l'occurrence dans Aquila, aux familles des terroristes coupables des attentats.
Que faire de nos morts, c'est ça le sujet.
Que faire de nos morts, puisque oui, il y a évidemment qui est la grande question de la tragédie grecque, hein, aussi en plus des questionnements politiques, c'est aussi que faire de nos morts, puisque bon, et aujourd'hui c'est une question assez brûlante, puisque voilà, les auteurs d'attentats terroristes sont la plupart du temps aussi des citoyens français. Donc, ils font aussi partie du corps de ce pays, et donc ça vient vraiment transposer, puisque Aquila, cette jeune femme, va être la seule de sa famille à vouloir aller rendre les hommages funéraires à son frère terroriste, contre l'avis de toute sa famille, contre l'avis du reste du monde, et par ailleurs elle va endosser ce voile, ce foulard blanc pendant la minute de silence en hommage aux victimes des attentats dans son lycée, et persister à porter ce foulard. Ce qui va créer une situation un peu intenable pour
qui est interdit
à l'école selon la loi de 2004. Donc je sais plus où était le début de ta question, mais
excuse-moi, c'était peut-être pas. Comment ça fonctionne par rapport aux documents?
Oui.
Comment ça s'articule avec le travail de fiction, d'écriture? Comment t'articules le travail fictionnel et le
absolument.
Travail de documentation?
Moi je me suis dit, pour parler de ces questions qui m'intéressent beaucoup, pourquoi tout le monde est hystérique sur le foulard en France, pourquoi la société se divise pourquoi certains et certaines veulent revenir à la peine de mort pour les terroristes. Enfin bon, bref, c'est des questions. Je me dis effectivement la distance du mythe ou la distanciation du mythe ou de la tragédie grecque permet ça. Ça va me permettre aussi que effectivement, comme dans Antigone, il y a deux frères qui sont entretués, l'un mort en héros, l'autre en ennemi de la cité. Comment je transpose ça? Ça va me permettre effectivement qui est le mauvais frère, le frère ennemi public numéro un terroriste. Mais l'autre frère est mort là, dans ma fiction, victime quelques années auparavant d'un crime policier. Donc ça, je peux me le permettre aussi parce que c'est une tragédie. Et évidemment, ça permet de condenser des choses. Enfin, on va dire, sur par exemple les jeunes garçons noirs et arabes dans les quartiers populaires, voilà, qui sont très très stigmatisés, qui subissent des violences policières. On dit aussi que c'est là que c'est le terreau du terrorisme, ces quartiers un peu déshérités, etc., etc. Donc ça me permet aussi de condenser des questions qui brûlent parce que y a la distance de la tragédie et sa grandeur. Donc moi, ce côté réalisme mythe m'intéresse.
Ce qui m'intéresse, comme une sorte de dialogue entre les deux, d'aller-retour.
Absolument, qui ouvre des choses. Ce que j'aime bien aussi chez Brecht, tu parlais de Brecht, c'est la question des contradictions et des complexités. On dit souvent Brecht, c'est très simpliste, c'est très didactique. Non, c'est quand même quelqu'un. Alors effectivement, dans l'écriture, il y a quelque chose qui a vieilli, mais dans les articulations, il y a quelque chose qui pointe les contradictions, qui travaille sur des dialectiques, qui laisse des choses en contradiction et inachevées pour que derrière on puisse, nous, depuis la société, voilà, continuer l'action politique et continuer à être actif dans la pensée et dans l'action. Donc, et comment j'articule ça ? Comme tu dis, sur des sujets aussi brûlants que ça, moi j'ai eu besoin de faire des crash tests d'Aquila pour voir comment ça passait auprès des spectateurs et spectatrices, parce que je ne savais pas si c'était trop violent de mettre en scène cette jeune femme par rapport à la proximité de l'actualité des attentats. Quand j'ai écrit la fin d'Aquila, qui reprend des éléments du discours d'Emmanuel Macron par rapport à Arnaud Beltrame, je me suis dit, ah, c'est peut-être chaud, mais bon, je me le permets, parce que je pense que c'est cohérent dans ma fiction et que c'est important aussi d'entendre aussi cette parole d'héroïsation. Pour le coup, Arnaud Beltrame, vous vous souvenez, hein, il a donné sa vie en échange de celle d'un terroriste, c'était à Trèbes. Et donc, il a été célébré comme un grand héros qui a sacrifié sa vie pour la France, pour la patrie. Et tout d'un coup, ce sacrifice-là a été absolument souhaitable. Et Macron dit même... oui, ça, c'est beau de se sacrifier pour la France, ça a du sens, ça donne sens à notre vie. Et il s'adresse à la jeunesse. Et c'est chaud quand même de dire, vous avez une superbe, un superbe devenir possible, c'est de vous sacrifier pour la France en luttant contre le terrorisme. Enfin, c'est super bizarre, quoi. Bref, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Et donc, je vais aller saisir des choses qui m'intéressent de façon documentaire. Je vais me poser la question de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Évidemment, il y a un an, quand on allait créer le spectacle... et que c'était quelques jours, semaines après la mort de Samuel Paty, tout d'un coup, un attentat terroriste qui a lieu, pour le coup, là, très en lien avec l'éducation, enfin, avec le cadre scolaire. Évidemment, ça tendait à un contexte de réception. Et voilà, et évidemment, c'était normal, on devait créer, dans le cadre du festival TNB... Et comme cette situation crée la mort de Samuel Paty crée un risque un peu d'attentat, il y avait des coups de fil tout d'un coup, il y avait des coups de fil pour se prémunir contre des trucs ou je sais pas trop
quoi. Et toi, ça t'a changé quelque chose dans ton rapport à ton geste artistique, à ton texte
Non, je pense que on dit le contexte de réception, évidemment, on n'a pas rencontré le grand public à ce moment-là. Puisqu'on
a été confinés et qu'on n'avait pas le droit.
Mais évidemment, en tout cas, ça donne une tension. Mais ceci dit, hier soir, c'est ça qui était très beau aussi dans la salle, c'est que la fiction aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais elle tend quand même les gens. On sent qu'il y a toute une salle qui est en attention autour de cette histoire. Donc... Non, je pense que j'assume. En fait, c'est pas comme si ces questions de voile, d'islam, de terrorisme n'agitaient pas la société française. Évidemment qu'on a besoin que ces choses soient dites et dépliées peut-être différemment sur un plateau de théâtre. Donc nous, on est suffisamment aussi solides pour assumer tout ça. Différentes visions de la laïcité et du vivre ensemble s'affrontent dans la société française. Donc on a besoin de discuter ces questions-là et de les soulever pour faire société. Donc, après, évidemment, on est attentif à ce qui se passe. Hein, et c'est pas rien demain de jouer à cette date anniversaire-là.
Ah non, ouais. Effectivement.
Mais pour moi, c'est aussi les moments où le théâtre rencontre très fort.
C'est là où pour toi, ça a du sens aussi de ce théâtre politique.
Enfin, ouais, carrément. Où ça... Carrément. Et c'est pareil aussi pour le fils aussi, même si maintenant, la loi, la manif pour tous. c'est un peu loin, mais je crois quand même qu'il y a comme il y a toujours des résurgences de ces mouvements un petit peu
D'idéologie extrême, je crois que malheureusement,
ou réactionnaire. Et puis comme pour moi, c'est, j'essaie de les situer chez des personnages et donc au niveau de l'émotionnel et de l'intime. L'idée aussi, c'est que ça continue à nous travailler de façon très humaine et de créer aussi. Je pense que dans les deux cas, dans les deux pièces, il y a vraiment un travail sur créer de l'empathie pour des personnages qui, a priori, ne sont pas aimables. C'est-à-dire chez Cathy, cette femme catholique qui devient catholique traditionnaliste, qui s'engage dans la manif pour tous,
n'entend pas son fils.
Qui n'entend pas ce qui se passe pour son fils. Et chez et pour Aquila, voilà, une sœur de terroriste. Donc je viens aussi voilà chercher des choses qui peuvent un peu nous déplacer et retrouver de l'humanité chez chacun et chez chacune pris dans ses contradictions.
Mais justement dans les deux pièces, on a un lien familial très très fort. Donc mère fils. Peut-être parce qu'on en a peut-être pas assez peut-être parlé pour le fils. Donc une mère qui se radicalise ou qui glisse un peu, une sorte de glissement dont elle est plus ou moins maîtresse ou responsable, on sait pas complètement. Et donc il y a une vraie relation avec son fils. Dans Aquila, on a une relation frère-sœur. Est-ce que le lieu de la famille est pour toi le lieu où ça se joue, où le vivre ensemble se joue aussi, où déjà l'altérité? Là, parce que moi j'ai pas mal de questions sur ce rapport aussi à l'altérité. J'ai pas vu Aquila, malheureusement, je le vois tout à l'heure encore, mais on entend bien cette altérité-là dans la pièce, dans le fils. C'est pas forcément des gens, comme tu disais, aimables au départ, mais qu'on a presque envie de découvrir. Après, moi, j'ai presque envie d'aller boire un café chez cette femme, chez cette mère. Et c'est ça qui est intéressant, comment on déconstruit les mécanismes. Mais pardon, je voulais revenir au lien de la famille. Est-ce que pour toi, c'est un endroit où ça se joue déjà,
C'est totalement inconscient. En fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que toutes mes pièces parlaient de famille. Mais c'est un peu inconscient. Non, mais évidemment qu'il y a plein de choses qui se jouent et qu'on est que c'est un microcosme passionnant parce que c'est un endroit où les rapports de violence et d'amour. Je suis pas en train de dire que la violence c'est de l'amour, hein, mais qu'en tout cas les rapports de violence d'affection sont très forts et souvent dans une confusion. Donc démêler ce qui se passe effectivement au sein de rapports intrafamiliaux, moi ça m'intéresse, et que c'est un cadre fort. Et après c'est aussi un cadre, ce qui fonctionne je crois, et ce qui dans le fils, c'est que tout le monde arrive à s'identifier à cette, non pas à s'identifier, mais en tout cas tout le monde est soit mère. Ou enfant, enfin, tout le monde a une mère.
Non, mais c'est ce rapport à l'empathie justement dont tu parlais, je pense aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que dans une famille, l'affect est très fort et d'ailleurs elle commence comme ça, à quel point elle aime ses fils.
Oui, c'est les principes d'identification. Et là, tout d'un coup, de déplacer la question du terrorisme dans. Parce qu'on a beaucoup parlé, et à juste titre, des victimes et des familles des victimes. Elles ont eu la place pour témoigner dans les médias, dans les victimes des attentats. Par contre, les familles des auteurs des attentats, on s'est beaucoup moins intéressé à elles. Et après, il y a aussi ce phénomène de honte, de désir de disparition. Mais comme ce sont des familles françaises, je trouve ça aussi intéressant. Et donc, ça reste des parents qui ont perdu un fils, ça reste des frères et des sœurs qui ont perdu des frères. Bon, et évidemment, ça travaille sur. Les fratries, on le sait, n'importe où, ne sont pas toujours très unies. Les enfants ne restent pas toujours en lien avec leurs parents. Mais comment tout ça travaille? Ouais, ça, c'est assez. Et c'est effectivement que ça puisse. La famille peut créer des effets d'identification, parce qu'on a tous un rapport avec notre famille, avec nos parents. Avec nos éventuels frères et sœurs, donc ça vient faire miroir.
On a tous un rapport dissonant dans la famille aussi, qu'il soit politique ou voilà, ce qui peut être très. Peut-être sur la question de l'adresse, à qui ça s'adresse, est-ce que Et bien sûr, c'est peut-être désagréable comme question, et j'espère pas, parce que c'est pas le but évidemment, parce que peut-être la réponse est à tous évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une adresse à la jeunesse dans tes spectacles? Est-ce que...
Alors, moi, j'écris jamais de texte jeune public, enfin pour ado, mais je me
adultes.
Ouais, ouais, mais je me rends compte que mes textes fonctionnent très très bien effectivement pour les ados, aux jeunes adultes, notamment quand je vois des lycéens qui s'emparent d'extraits de mes textes, ils sont souvent d'une espèce de justesse, parce que j'essaie d'écrire moi dans une langue claire et accessible. Donc oui, je pense que j'ai... Alors évidemment, je m'adresse à tout le monde. Hein. J'essaie d'avoir une adresse la plus large possible. Mais c'est sûr qu'évidemment, voilà, Aquila, ça se passe dans un lycée. Le fils, ça parle d'une mère et d'un adolescent, de deux adolescents qui sont lycéens. Donc évidemment, ça vient aussi toucher cette jeunesse et la concerner. On voyait bien derrière, hier dans la salle, comment les jeunes étaient très, très... parce qu'il y avait vraiment tout un gros angle de lycéens et lycéennes qui sont tous mis voilà, très loin de leurs profs. Je me suis dit, ça va être chaud. Et bim, en fait, dès le début. Et puis, ils étaient en attention du début à la fin. Ils parlaient, mais ils parlaient du spectacle, commentaient. Il y avait vraiment aussi un côté cité grecque qui bruisse par rapport à ce qui se passe. Là, je suis très très contente si ça vient aussi. Et d'ailleurs, on a un peu résidé dans des lycées pour quand on répétait la pièce. Donc, c'était passionnant aussi de nous confronter aux jeunes et à la jeunesse. Et puis, il faut bien dire que pour des maisons comme ici, hein, c'est les spectateurs et spectatrices de demain. Donc, il faut, les emmener avec un théâtre qui n'est pas trop poussiéreux
Qui éveille et qui réveille. Qui actuelle. Et l'adolescence, c'est aussi le lieu de la construction identitaire et où on se pose aussi certaines questions et où on peut avoir des attitudes parfois radicales et parfois complètement... Je ne sais pas, il y a un écho avec tes sujets, j'imagine.
Carrément.
Et justement, par rapport à la langue, ton rapport à la langue, parce que là, donc, par rapport à Aquila notamment, qui traite d'une certaine jeunesse, d'une jeunesse de quartier populaire, comment est-ce que tu as travaillé... La langue, leur langue, on entend la langue arabe dans le spectacle également. Et quel est ton rapport à cette langue? Comment tu as travaillé?
Moi, je suis née à la fin des années 70, donc je suis hyper vieille. Du coup, par exemple, je ne suis pas dans l'action de ma pièce se situe dans un quartier populaire, mais je ne suis pas dans une tentative de ressembler à un langage, on va dire, banlieue, réaliste. Je me dis, bon, on est dans une tragédie, mais par contre, je vais pouvoir mixer différents niveaux et le registre de langage. Il y a des expressions qui semblent presque un peu vieux jeu, et que d'ailleurs, les acteurs se foutent un peu de moi, mais... Je dis non, mais ça, voilà. Et des argots de différentes époques. En fait, j'aime bien aussi un peu mixer les choses. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait une langue qui soit rythmée, qui puisse pulser, qui mêle différents registres. Donc, il n'y a pas de tentative de je vais essayer de restituer un langage des quartiers populaires d'aujourd'hui. Puis bon, ça demande toujours un passage et un vrai travail d'écriture et de littérature. Hein. On ne peut pas. On joue sur différents registres. Ce que je disais, oui, c'est vrai que
certaines théâtralités, j'imagine.
Ouais, carrément. En tout cas, que la langue soit claire, compréhensible, rythmique, qu'on puisse c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont entre des, on parlait de stichomyty là, qui viennent du théâtre de la tragédie classique, mais on parle aussi bien de stichomyty que de punchline. Et puis ça se retravaille aussi avec les acteurs en bouche, au plateau. Moi, évidemment, j'ai une certaine, quand j'écris, une certaine sensation du mouvement des phrases, des répliques, etc. Et quand je vois que ça fonctionne et qu'elle se lève au plateau dans la bouche des acteurs, c'est magnifique. Et des fois, il faut retravailler, il faut élucider des trucs, il faut se dire, non, mais attends, RG, je crois pas que les élèves, aujourd'hui, ils savent ce que c'est. En plus, il n'y a plus de RG. Donc on a rajouté une réplique, un quoi? Et donc on a utilisé Poucave, Balance, qui sont des traductions plus plus actuelle et plus compréhensible. Alors que pour notre génération, RG, c'est très clair. Mais ouais, voilà, ça se construit au fur et à mesure. Et en tout cas, ça se questionne. C'est intéressant aussi, parce qu'on est dans l'équipe avec plusieurs générations. Donc c'est chouette aussi.
Peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur le fond, tu parles beaucoup d'interrogations. Comment on évite l'écueil avec des sujets aussi brûlants du didactique, même si on l'a un peu entendu, mais on a, parce que souvent tu dis j'interroge. Comment on continue à interroger? Comment est-ce que tu évites l'écueil de l'univocité, la parole, et du militant, en fait, que le théâtre, comment t'évites le théâtre politique, oui, et pas le théâtre militant?
Alors,
est-ce que tu l'évites pas?
Non, je l'évite pas. En fait, c'est vrai que les mots militant ou didactique sont très dévalorisés, je sais pas trop pourquoi, parce que moi, depuis que je... c'est vraiment la question, on est... Enfin, tu vois, c'est ça, c'est que si tu fais un théâtre, effectivement, de mots d'ordre... Mais le militantisme n'est pas non plus un truc de mot d'ordre. Moi, quand j'ai commencé à militer dans divers cercles, j'ai plutôt été dans des cercles où ça discutait beaucoup, et ça permet vraiment d'affiner ta position individuelle dans toute sa complexité, plus que ça ne... T'es pas en train de suivre... Donc en fait, c'est plutôt, moi, ce que j'ai vécu, c'est plutôt un affinement de ma position personnelle, de sa complexité, à travers dans quoi je me reconnais comme idée, comme courant politique, etc. etc. Et pareil, là, on dit toujours didactique, c'est mal. Pour moi, le didactisme est une modalité du théâtre politique. Et puis s'il s'agit de transmettre ou de faire résonner des savoirs dans une pièce, quel mal il y a à ça? Alors si c'est fait de façon professorale ou édifiante, c'est pas très intéressant, mais il y a poétique, ludique, et puis moi, je trouve ça chouette en fait d'être nourri, d'apprendre des choses et de voir un spectacle où j'apprends des choses, où je suis émue, où je suis... Donc je pense que ouais, moi je travaille plutôt dans mon théâtre à faire exister, en tout cas j'assume totalement la dimension éventuellement didactique, et je pense qu'il faudrait qu'on soit plusieurs artistes avec qui on en parle à écrire un petit manifeste sur ça, parce qu'on est toujours réduit alors que ça suffit quoi. Et la question du militantisme, moi j'aurais pas écrit le théâtre que j'ai écrit si j'avais pas milité, rencontré des collectifs, donc moi je trouve c'est plutôt en fait le militantisme qui vient nourrir mon théâtre. Et j'assume le fait que ce soit un théâtre militant, au sens où c'est un théâtre qui réfléchit, qui combat les oppressions, qui interroge les systèmes de domination. Donc j'essaie plutôt d'en faire des mots positifs.
Des mots nobles.
Absolument.
Peut-être, on n'est pas très nombreux, alors peut-être vous avez des questions. Oui, super. Et on répète la question pour l'enregistrement. Pourquoi est-ce que le fils est conseillé à partir de 16 ans?
Eh bien, alors, je ne sais pas pourquoi. 15 ans, c'est grand troisième, c'est ça? Alors, ouais, en fait, mais je pense que les élèves de seconde sont déjà allés le voir. Non, en fait, c'est juste que la... C'est un texte d'1h20, c'est un monologue. L'histoire se suit très bien, mais c'est assez dense. Je sais pas, c'est que... C'est pas... Ouais, je sais pas tellement pourquoi c'est qu'à partir de 16 ans. Franchement, vous me posez une bonne question, mais c'est pas moi qui ai choisi. Donc, il faudrait demander à David Gauchard, Lémi Jambis. Je pense que... ouais, c'est pas une forme où on va... C'est vraiment un... Voilà, il n'y a pas de difficulté de compréhension, il n'y a pas de choses pornographiques ni rien, mais c'est un objet assez...
Ce serait plutôt la forme que le fond.
J'en sais rien, faudrait demander à la... Voilà, mais je pense que des gens plus jeunes peuvent tout à fait venir. Quand je suis sur l'écriture, j'essaie vraiment de me poser des questions d'écriture, c'est-à-dire que le texte tienne sur la page, que, que ça fasse littérature, que ça fonctionne en tant que texte. Et je vais plutôt me donner, voilà, avoir les images de la fiction. Et après, quand je passe à la mise en scène, là, je me pose des questions de mise en scène. Parce que j'ai besoin, pour comprendre comment ça va se lever au plateau, d'avoir l'espace, d'avoir les acteurs et les actrices. Mais ouais, je suis pas en train d'imaginer la mise en scène quand j'écris. Alors après, évidemment, j'écris pas des trucs absolument impossibles à mettre en scène, mais ouais, j'essaie de dissocier un peu les deux, justement pour faire les deux métiers. Il y a plein de passerelles. Mais...
Néanmoins, tu n'écris que pour le théâtre ?
Oui, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Non, et puis parce que le théâtre, c'est formidable, parce qu'on peut écrire dans le théâtre, on peut écrire du récit, on peut écrire des dialogues, on peut écrire de la poésie, on peut écrire de la philosophie, on peut écrire des bouts d'essais, enfin voilà, on peut des bouts de romans, enfin bref, en fait, c'est quand même une littérature où on peut pratiquer toutes sortes de littérature. Évidemment, et puis dont on sait que si on trouve des sous pour le faire entendre et pour le produire, ça va rencontrer des spectateurs et des spectatrices. Voilà.
C'est parce que en militant à un théâtre, tu souhaites le débat par rapport au avec le spectateur, tu souhaites que ça éveille. Je sais plus, j'ai lu, qu'est-ce que tu disais ? Du théâtre, il faut ressortir la conscience aiguisée, intranquille et armée.
Oui. Très brechtien. Ouais. Mais bon, un jour, quand j'aurai le temps, j'écrirai autre chose. Mais bon, pour l'instant, moi, je trouve que c'est tellement excitant, les possibles du théâtre, qu'il faut en profiter.
Peut-être on va s'arrêter là. Ça vous va ? Merci beaucoup.
Merci, Jenny. Merci, Le Quai, de faire ce focus sur ces deux pièces. C'est hyper... précieux et émouvant pour moi que ces deux textes soient représentés cette semaine à Angers. Et puis ils ont de nombreuses parentés, mine de rien.
C'est beau de voir les deux, ouais. Il faut voir les deux. Il ne
faut pas hésiter. Ouais,
ouais. Toute cette semaine, donc Le Fils est présenté ici au Quai et toute cette semaine à Aquila. Enfin, jusque vendredi pour Aquila. Donc encore ce soir et demain au THB. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.